Bonjour et bienvenue sur RFI. Si vous nous rejoignez, il est tout juste 16h à Paris.
Olivier Sherman.
Une attaque au couteau dans un lycée en France. Un élève décède, 3 autres blessés. Les détails de cette attaque dès le début du journal avec Sylvie Coffi. La Crimée au centre de nombreuses déclarations ces dernières heures. Pour le président Macron, la question du statut de la Crimée ne se pose pas maintenant. Pékin a lancé réussi pour la Chine avec la mission Shenzhou 20 qui envoie un équipage de 3 astronautes vers la station spatiale chinoise Tiangong. Les ambitions du programme spatial chinois avec notre correspondante à Pékin, Cléa Broadhurst. Enfin, en Turquie, un nouveau grand rassemblement hier à Ankara avec surtout des jeunes pour sauver la démocratie. Depuis le début de la mobilisation, de très nombreux manifestants se revendiquent de la figure d'Atatürk, premier président turc. Nous retrouverons Anne Handlauer qui était avec les manifestants. Un mort et 3 blessés après une attaque au couteau dans un lycée à Nantes. Un élève est décédé et 3 autres seraient grièvement blessés. Sylvie Coffi, bonjour.
Bonjour.
L'attaque s'est donc déroulée à la mi-journée. Que sait-on exactement?
Alors, selon les informations de l'agence France Presse, le drame aurait eu lieu au sein de Notre-Dame de Toute-Aide, un collège privé catholique, vers 12h30. L'auteur des coups de couteau serait un élève âgé de 15 ans, scolarisé en classe de seconde. Selon nos informations, il était armé de 2 couteaux, dont un de chasse. Le suspect, un élève décrit comme dépressif, aurait eu un différend avec sa première victime. Il aurait été maîtrisé par un responsable informatique avant d'être interpellé par les policiers. Aucune revendication terroriste n'a été formulée. Des cas d'une telle violence au sein d'un établissement scolaire sont très rares en France. Ces derniers mois, des agressions meurtrières entre élèves se sont produites aux abords des collèges et lycées. Le ministre de l'Intérieur et la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, sont attendus sur les lieux d'un moment à l'autre et le procureur de la République va s'exprimer d'ici 3 heures.
Sylvie Coffi du service France de RFI. Et puis toujours en France, un vaste coup de filet à Marseille. Tôt ce matin, 21 interpellations de trafiquants appartenant au haut du spectre du narco-banditisme marseillais. Annonce de Bruno Retailleau en visite dans la cité phocéenne. Les personnes arrêtées, dit le ministre de l'Intérieur, sont de haut responsables qui tiennent un réseau à la Castellane, une place forte du trafic de drogue. Ce ne sont pas des petites mains, mais des chefs de haut niveau du narco-banditisme. Au total, 170 enquêteurs ont été mobilisés pour ce coup de filet qui est, selon le ministre, un coup dur, sinon mortel, porté à ce réseau. Une tension très forte entre l'Inde et le Pakistan, suspension de visas, expulsion de diplomates, fermeture de frontières. La situation politique est explosive dans le sous-continent après une attaque contre des touristes dans le Cachemire indien, avec au moins 28 morts. C'est l'attentat contre des civils le plus meurtrier en Inde depuis 2008. Dans une brusque escalade, les autorités des 2 puissances nucléaires ont annoncé que les ressortissants de leurs voisins et rivales étaient priés de quitter leur territoire à brèves échéances. Le Pakistan considérera aussi toute tentative de détournement de l'eau du fleuve Indus de l'Inde comme un acte de guerre. C'est l'une des pires attaques contre la capitale ukrainienne depuis le début de la guerre. 8 personnes tuées et plus de 70 blessés par des missiles russes à Kiev. C'est un bilan provisoire qui n'a cessé de s'alourdir. Parmi les blessés, 42 personnes sont hospitalisées, dont 6 enfants. Des frappes répétées de missiles ont aussi touché la ville de Kharkiv et fait au moins 2 blessés. La réaction ukrainienne est venue du ministre ukrainien des Affaires étrangères. Selon lui, cette frappe massive de missiles russes prouve que Moscou ne souhaite pas mettre un terme à son invasion de l'Ukraine. Le président russe, Vladimir Poutine, montre par ses actes qu'il ne respecte aucun effort de paix et ne souhaite que continuer la guerre, a-t-il dit. Volodymyr Zelensky, lui, écourte une visite en Afrique du Sud pour rentrer en urgence en Ukraine. Donald Trump, qui avait violemment critiqué le président ukrainien concernant la Crimée, réponse de Volodymyr Zelensky, l'Ukraine fera tout ce que ses partenaires exigent, mais ne cédera pas sur la Crimée. Et justement, avant de repartir de Madagascar, Emmanuel Macron lui aussi s'est exprimé devant la presse sur ce sujet. Le président a réagi aux propos de Donald Trump sur la Crimée, qu'il avait dit qu'il avait perdue depuis des années. On écoute Emmanuel Macron.
Il décrit une situation de fait. Mais est-ce que c'est notre rôle de décrire une situation de fait? Il y a une armée qui a conquis depuis 2014, de manière totalement illégale, par la violence, et en tuant un territoire. C'est décrire une situation de fait, ce qu'il dit. Est-ce que pour autant, faut en donner quitus? Non. En tout cas, pas maintenant. Et c'est pas à nous de le faire, j'ai toujours dit, c'est à l'Ukraine et à ses représentants de dire cela.
Emmanuel Macron au micro de Valérie Gasse. La Chine poursuit tranquillement, mais sûrement, sa conquête spatiale. Pékin a lancé la mission Shenzhou 20, qui envoie un équipage de 3 astronautes vers la station spatiale chinoise Tiangong. Ils remplaceront les 3 taïkonautes présents depuis octobre dernier dans une rotation désormais bien huilée. Une mission qui peut sembler de routine, mais qui dit beaucoup de l'ambition et de la maturité croissante du programme spatial chinois. Les explications à Pékin de Cléa Bordeast.
À bord, on retrouve un vétéran, Chen Dong, déjà impliqué dans la construction de la station lors de la mission Chenzhou 14, et deux nouveaux venus, Chen Zhonghui, ancien pilote de l'armée de l'air, et Wang Jie, ingénieur du secteur spatial. Leur séjour de 6 mois sera consacré à des expériences scientifiques, des sorties extravéhiculaires et à l'amélioration de la station. Avec cette mission, la Chine montre qu'elle est non seulement capable de rejoindre l'orbite, mais surtout d'y rester. Une prouesse que seuls quelques pays maîtrisent, exclus de l'ISS pour des raisons de sécurité nationale liée à l'influence de l'armée chinoise dans le programme spatial, la Chine a choisi la voie de l'autonomie stratégique et elle y parvient. La station Tiangong n'est pas qu'un laboratoire scientifique, elle est aussi un tremplin vers la Lune que Pékin espère atteindre avec un équipage humain d'ici 2030. C'est aussi un outil de diplomatie spatiale alors que la Chine commence à tendre la main à d'autres pays, notamment dans le sud global. Un pas solide et régulier dans une trajectoire qui pourrait bien changer durablement l'équilibre des puissances dans l'espace. Claire Broderst, Pékin, RFI.
Un nouveau rebondissement sur la scène politique sud-coréenne. L'ex-président Moon Jae a été inculpé pour corruption. Il est soupçonné d'avoir facilité l'emploi de son gendre dans une compagnie aérienne. Avec cette inculpation, 2 anciens présidents sud-coréens sont donc à présent simultanément dans le collimateur de la justice. Yoon Seok-yeol est lui jugé pour insurrection à la suite de sa tentative ratée d'instaurer la loi martiale dans le pays. Il y a un mois, le 23 mars, Ekrem İmamoğlu, le maire d'Istanbul et le principal rival du président Erdogan, était envoyé en prison pour des soupçons de corruption. Une arrestation qui a déclenché une vague de protestations inédite en Turquie depuis une douzaine d'années. La formation du maire déchu, le Parti républicain du peuple, le CHP, a organisé hier une grande marche dans la capitale Ankara qui coïncidait avec la journée de la souveraineté nationale et des enfants, une fête nationale. Le CHP a appelé tous les opposants à marcher jusqu'au mausolée de Mustafa Kemal Atatürk, fondateur et premier président de la République de Turquie. Depuis le début de la mobilisation, de très nombreux manifestants, notamment parmi les jeunes, se revendiquent de la figure d'Atatürk. À Ankara, le reportage d'Anne Andlauer.
Nous sommes les soldats de Mustafa Kemal. C'est un slogan qu'on entend souvent depuis le premier jour dans les rassemblements de soutien à Ekrem İmamoğlu. Le maire emprisonné est un membre du CHP, le parti fondé par Atatürk il y a un siècle. Mais pour beaucoup de manifestants, notamment beaucoup de jeunes comme Belis, âgé de 23 ans,
le fait que je manifeste n'a aucun rapport avec un parti ou une idéologie en particulier. Je manifeste pour défendre le droit de vote et le droit d'être élu que le pouvoir tente de nous retirer en faisant enfermer son principal opposant. Car ce pouvoir sait qu'il sera battu aux prochaines élections. Or, ce droit de vote et d'être élu, c'est Atatürk qui nous l'a donné. Atatürk est ma ligne rouge, il est la ligne rouge de cette nation.
Un sondage réalisé à Ankara fin mars révélait que 70% des manifestants de la capitale avaient moins de 25 ans et que plus de 55% se décrivaient comme ataturkistes, suivi par 17% qui se disaient nationalistes. Rien d'étonnant pour Soudé, elle n'a que 16 ans et elle pense que la République est en danger.
Ces derniers temps, ce pouvoir fait tout pour faire oublier l'héritage d'Atatürk, pour changer notre constitution. Contre ça, nous, les jeunes, nous devons protéger la République d'Atatürk.
Des propos qui déplairaient sans doute à Recep Tayyip Erdogan. L'actuel président prétend incarner seul ce qu'il appelle la nouvelle Turquie. Un endroit Ankara RFI.
Au moins 36 personnes, dont 6 membres d'une même famille, tuées dans de nouveaux bombardements israéliens sur la bande de Gaza ce matin, annonce de la défense civile palestinienne. Et puis le ministre iranien des Affaires étrangères propose de se rendre en Allemagne, en France et au Royaume-Uni pour des discussions sur le programme nucléaire de Téhéran. Enfin, à Rome, l'afflux des fidèles se poursuit devant la dépouille du pape François. Plus de 60 000 personnes ont défilé depuis hier devant le cercueil exposé dans la basilique Saint-Pierre. Vous écoutez RFI, il est tout juste 16h10 à Paris.